Dieu vous bénisse. Bien le bonsoir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier. Excusez-moi. Père céleste, Dieu tout-puissant, ainsi que le Seigneur priait, tu nous as fait connaître ton nom. Et Néhémie disait que ton nom est au-dessus de toutes les bénédictions. Ton nom est au-dessus de toute louange. Par ce nom, ô Dieu, tu veilles sur nous. Par ce nom, tu produis des prodiges en notre faveur. Tu nous gardes, tu nous conduis. Et ce nom constitue pour nous un refuge. Puisses-tu nous justifier ce soir, afin que lorsque nous pénétrons dans ce refuge, que nous puissions y trouver la sécurité, la consolation, tout ce dont nous pouvons avoir besoin ici sur terre, qui nous rapproche également de toi, qui nous fait mieux te connaître. Nous nous attendons à toi ce soir. Maintenant que la louange t'a été apportée, maintenant que les prières t'ont été adressées, nous voulons passer quelques instants autour de ta parole. Quelque chose qui nous instruise, qui nous exhorte, afin que nous te soyons agréables. Pendant que ton regard vif est sur nous, regarde-nous au travers du sang de Jésus-Christ. Et que cela se passe comme au temps de Balaam qui disait « L'Éternel ne voit pas d'iniquité en Jacob. » Lave-nous de toutes nos iniquités. Que ta grâce soit sur nous. Pardonne-nous, Seigneur. Te remercions des moyens que tu nous as donnés pour arriver en ce lieu. Te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné. Maintenant, tiens-nous dans ta main, alors que nous sommes dans ta présence. Parle-nous avec cette parole, par cette parole merveilleuse qui en même temps est un feu et un marteau. Te remercions pour ce soir. Bénis tes enfants qui sont dans l'affliction, qui sont dans le besoin ce soir. Que tu les visites et que, Seigneur, des témoignages soient apportés. Nous attendons à toi, au nom merveilleux et tout suffisant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux ce soir encore d'être comptés parmi les enfants de Dieu, d'être comptés dans les rangs de Jacob, parce qu'à eux, Dieu révèle sa parole. Je suivais un débat tout à l'heure où parfois ils aiment bien sortir des versets bibliques. Il y en a un qui a sorti un verset biblique qui dit « Personne n'est arrivé au ciel. Au ciel, il n'y a que Dieu lui-même qui est là-bas. » Un autre lui a dit « Tu mens parce que Élie est parti au ciel. » Et Moïse aussi est parti au ciel. Et Enoch aussi, il a cité Enoch. Alors, l'autre dit, mais c'est pas moi qui ai dit que personne n'est monté au ciel. C'est Jésus qui le dit. Alors, il demande, et de quel ciel? Le ciel dont où Enoch est parti, je crois, les théologiens disent que c'est le ciel atmosphérique. Moi, j'ai dit, c'est une grâce que de connaître la parole de Dieu. Ouais. Ce sont des hommes intelligents, des politiciens, ils paraissent à la télé, ils viennent, ils disent n'importe quoi. Alors, l'autre, il dit, non, il y a les cieux, il y a le ciel. Et l'autre ne voulait pas entendre dire qu'il y avait des cieux. Et pourtant, le ciel est bien clair, la Bible est bien claire. Ouais. Quand Paul nous dit qu'il est monté au troisième ciel, quand Néhémie parle des cieux des cieux, les gens ne s'imaginent pas la grandeur de Dieu. Et c'est difficile même de se l'imaginer. Nous, on ne se l'imagine pas, on y croit. C'est ça la différence. Eux, ils essayent de se l'imaginer. Les cieux des cieux. Gloire à Dieu. Dans Genèse chapitre 2, nous allons lire ceci. Les deux premiers versets. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Pouvons nous asseoir. J'ai tiré ça d'une lettre circulaire. Le frère avait écrit, je n'ai pas regardé l'année, mais ce texte, il a pris. Et nous allons intituler « Dieu achève ses œuvres ». J'ai même envie de dire « toujours ». Dieu ne laissera jamais une œuvre inachevée. Il achève toujours tout ce qu'il a commencé. Il a commencé une œuvre, il doit la terminer. Qu'importe si l'œuvre peut paraître incroyable. Quand il dit dans Ésaïe 9, ou Ésaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte Amen. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. En tant qu'humain, on va se dire c'est impossible. Mais qui est impossible, on a vu ici, la seule chose qui est impossible à Dieu, c'est de mentir. Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas séduire, Dieu ne sait pas faire ça. Pour séduire Achab, il avait besoin d'une aide. Mais pour ce qui est de faire des choses que l'homme juge impossibles, mais Dieu en est capable. Nous le croyons. Nous ne raisonnons pas. Parce que si on raisonne, eh ben, on tombe dans le doute. Nous ne raisonnons pas. Nous disons tout simplement, Dieu est capable de le faire. Nous ne le disons pas juste pour le dire, mais nous le croyons aussi. Amen. Comme je dis toujours, s'il décide de me faire passer au travers de ce mur, je passerai. Comment est-ce que Philippe est arrivé dans le désert comme ça? C'est Dieu qui l'a fait arriver là. Et une fois qu'il a parlé avec l'eunuque, après l'avoir baptisé, hop, il est reparti, il s'est retrouvé ailleurs, à des, je ne sais pas, à des kilomètres de là. Pour arriver sur la lune, il leur faut 10 jours pour aller revenir, je ne sais pas, je crois qu'il leur a fallu 10 jours. Mais Dieu, en une seconde, vous êtes sur la lune. C'est la chose que le monde ne comprend pas. Dans la seconde même, Dieu peut vous placer sur la lune. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il achève toujours tout ce qu'il a commencé. Qu'importe hein, si c'est incroyable, vous pouvez dire, je n'y crois pas, votre incrédulité ne l'arrêtera pas. Il achèvera quand même l'œuvre, quand bien même vous la trouvez, même quand bien même vous n'y croyez pas. Il le dit dans Habacuc. Habacuc, chapitre 1er, il dit « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre. » Amen. Je vais la faire, que vous ne croiriez pas si on la racontait. Dieu sait, notre incrédulité ne le surprend pas. Amen. La chose peut paraître étrange, mais néanmoins, si Dieu a décidé de le faire, il va la faire. Dans Ésaïe 28, il dit ça. Il dit ceci. Verset 21, on va juste lire le verset 21. « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange. » Amen. « Pour exécuter son travail inouï. » J'ai regardé ce qu'il a fait à Peratsim. En fait, il a dispersé les Philistins. Il a donné la victoire à David. David venait d'être roi. Vous pouvez lire ça dans 1 Chronique 14. Et avec l'aide de l'Éternel, David a dispersé les Philistins. Avant de monter contre les Philistins, Il a demandé à Dieu, monterai-je contre les Philistins? Une fois Dieu lui dit, monte. Une autre fois Dieu dit, attends. Tu verras, tu entendras 1 Chronique 14. Verset 13. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Si vous montez plus haut, la première fois, il lui a permis. Mais ce que je voulais lire, c'est ceci. Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, c'est incroyable, ça. Vous avez déjà vu un mûrier et vous voyez les cimes du mûrier, à quoi ça ressemble? Dieu dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûrier, alors tu sortiras pour combattre. C'est quelque chose que le vent ne peut pas imiter. C'est-à-dire, si le vent souffle sur les mûriers, ça va faire un certain bruissement, mais ce n'est pas un bruit de pas. Un bruit de pas, c'est sur les mûriers. Ah, Dieu merveilleux. Amen. Alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi. Donc ces pas-là, ce sont les pas de Dieu qui marchent devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Cette ville de Gabaon a vu de grandes choses. Vous savez que le soleil s'est arrêté, a arrêté sa course à Gabaon. Josué chapitre 10. Alors quand vous racontez ça à un scientifique, il va vous dire c'est impossible. Ça ferait exploser la terre. Verset 12, il y en a même un infidèle qui avait dit... D'ailleurs, c'est la terre qui se déplace, ce n'est pas le soleil. Pendant que même quand ils vous enseignent ces choses, ils vous disent que le déplacement est relatif. C'est-à-dire, moi je peux marcher, vous, quand moi je marche, moi je peux vous trouver immobile. Mais vous, vous me voyez marcher. C'est ça, vous voyez ça. Mais entre-temps, vous vous déplacez aussi. Parce que maintenant, vous êtes à cette distance-là de moi. Si je me déplace, vous, votre distance de vous à moi, ça grandit. Le déplacement, il est relatif, ça dépend par rapport à quoi vous regardez le déplacement. Ah oui. Alors, ils ont fini par apprendre que le soleil avait une orbite. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon, à des endroits bien précis. » Quand Dieu dit à la lune, « Arrête-toi sur la vallée d'Ajalon », la lune est censée savoir où est la vallée d'Ajalon. Même si moi, frère François, je ne sais pas où elle est cette vallée d'Ajalon, la lune le sait. Amen. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Je demanderai à Josué, quand je le verrai, je vais lui demander, frère, est-ce que les montres se sont arrêtées aussi? Gloire à Dieu. Donc, ça peut être étrange, ça peut être inouï, donc inouï ça veut dire, vous n'avez jamais entendu dire ça, mais Dieu accomplira quand même l'œuvre. Nous avons vu ici dimanche que Dieu a confié à Jésus-Christ une œuvre. Et Jésus-Christ l'a achevé, cette œuvre. Il n'est pas parti en laissant l'œuvre inachevée. Hein. Jean, chapitre 17. L'œuvre que Dieu lui a confiée. Il dit ceci. Verset 1er. Après avoir ainsi parlé, il a dit, j'ai vaincu le monde. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Et toutes les œuvres de Dieu, une fois achevées, elles sont parfaites. Il n'y a aucune œuvre de Dieu achevée qui ne soit parfaite. Dans Deutéronome 32, Moïse parle. Verset 3. Il dit, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. » Amen. « Car toutes ses voies sont justes. » Dans Genèse, il dit, « Faisons l'homme à notre image. » L'homme étant son œuvre, l'homme est appelé à être parfait. Adam était parfait. Sa chute, évidemment, l'a déformé, mais sinon, Adam était parfait. Dieu vit que cela était très bon. Maintenant, nous vivons, il y a eu pour cela, Dieu a prévu pour cela, pour ramener Adam dans sa position originelle. Et tous les fils d'Adam, tous les fils d'hommes, pour les ramener à leur position originelle, Dieu a concocté un plan de rédemption. Parce que la rédemption signifie aussi vous ramener à l'origine. Et l'homme, bien sûr, donc, doit être ramené à cet état-là. Et Jésus le dit lorsque il descend de la montagne. Il descend de la montagne, il dit ceci. À ses disciples. Vous pouvez lire à partir de beaucoup plus haut, hein. Mais on va juste lire le verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. J'aime beaucoup le donc là. Le donc signifie que ce qu'il dit là est une conséquence de ce qu'il a dit plus haut. Ça va ? C'est une conclusion de ce qu'il a dit plus haut. Et qu'est-ce qu'il dit plus haut ? Par exemple, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Nous sommes au verset 43. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est quelqu'un de parfait. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous maudissent. Il t'amène à ça. C'est ça être parfait. Enfin, entre autres, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est parfait. Parfait ne signifie pas seulement ne pas s'enivrer ou ne pas mentir, mais être parfait, c'est faire du bien à ceux qui vous haïssent. de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il y a donc, vous pouvez encore aller plus loin hein, si vous voulez. Verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça, c'est là. Tout ça, c'est la perfection selon Dieu. Ah là là. C'est là où on se regarde. Suis-je parfait? C'est là où Pierre va dire, il est impossible que quelqu'un soit sauvé. Et Paul dit dans Hébreux, si c'est Paul qui a écrit, mais en tout cas l'écrivain aux Hébreux dit ceci, chapitre 6, verset 1er, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments, ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas, ne fais pas ci, hein, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le jeune homme riche qui est venu demander qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus a dit, tu connais les commandements. Les commandements, tu aimeras ton... Oui, il a dit, je fais tout ça depuis mon enfance. Tout ça, c'est très bien. Ça ne suffisait pas. Jésus lui a dit, il te manque une chose. On a déjà parlé de ça, ici. C'est cette chose qui manque. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. C'est vrai, on ne fait jamais rien de mal. Moi, mon frère, quand il me regarde, il ne verra peut-être rien de mal sur moi. Rien à dire. Mais, lui qui voit tout d'un œil perçant, dit, il va me dire, il te manque une chose. En ce qui me concerne, si pas deux ou une centaine. Oui. Dans la rue, quelqu'un vous insulte. Vous ne savez même pas garder votre calme. Vous avez envie de répondre. Et pourtant, le monde lui-même le sait. Le monde. Dans le monde, on dit, excusez-moi le terme, mais c'est ce qu'ils disent, quand un imbécile parle, ne lui répondez pas. On répond à l'imbécile par le silence. Mais, garder ce silence-là, n'est pas facile, hein? Ceux qui sont souvent dans le trafic routier, ils savent de quoi je parle. Vous voyez deux personnes s'arrêter pour se taper dessus. Tout simplement parce qu'il y en a un qui a pris la priorité de l'autre ou quelque chose dans ce genre. Et vous voyez, au lieu de s'excuser, il lui lance un mot inconvenant. Un homme parfait, il ne réagit pas à ça. Au contraire, il peut même lui dire que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse. Ah non, je ne lui dirai pas. Pas à lui. On a même tendance à dire que Dieu te maudisse. Je l'ai peut-être jamais dit, mais je l'ai souvent pensé. Ah, toi aussi. Hein? Merci. Il faut être sincère. Vous avancez, vous avancez, vous êtes un peu plus loin, vous dites, que Dieu le maudisse. Dieu dit, il faut bénir. Ah, donc, l'apôtre dit, les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. C'est-à-dire, tendons à ce qui est divin. Parce que Dieu seul est parfait. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Tout ça, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui blasphèment aujourd'hui, à tout bout de champ, n'importe où, même publiquement. Vous les voyez partir à l'aise. Dieu ne les frappe pas. Mais si nous, on avait le pouvoir de Dieu, quelqu'un vous prend en partie comme ça, dans la rue. Quand je vous dis toujours le troisième poule, il faut qu'on soit vraiment prêt pour ça. J'ai une fois entendu des frères qui étaient partis à Krefeld. Je ne sais pas, il y a eu une discussion. La discussion a mal tourné dans le dortoir. La discussion a mal tourné. Puis finalement, il y en a un qui a menacé l'autre. Je ne sais pas quel frère. Hein. C'est pour ça que je le dis. J'espère qu'il n'est pas ici. Ou qu'il ne m'entendra pas. Il dit, fais attention, sinon je vais dire un ainsi dit le Seigneur contre toi. C'est pas pour ça, les ainsi dit le Seigneur. L'apôtre dit, en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Donc, on est ramené à notre position originelle par le sang de Jésus-Christ. Et en Christ, par ailleurs. Éphésiens 1. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Tout cela, nous l'obtenons en lui. Et la rédemption, puisque c'est par le sang de Jésus-Christ que cela a été effectué, notre rachat, la rédemption est une œuvre divine achevée. À Golgotha, le sang a coulé jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'il en sorte de l'eau. Hein. Jean 19. On va lire d'abord plus bas. Verset 32. Les soldats vinrent donc et y rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Vous voyez, celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. C'est Jean qui le dit. Au verset 30, on va lui apporter le vinaigre. C'était une forme de drogue. Parce que la douleur était tellement intense, on les droguait pour que, pour plus ou moins atténuer leur souffrance. Verset 29 d'abord, donc il y avait là un vase. Non, il a dit « j'ai soif » au verset 28. Verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « tout est accompli ». Quand vous regardez le mot « accompli », le mot originel en grec, c'est le même mot que quand il dit « j'ai achevé ton œuvre, l'œuvre que tu m'as donnée ». C'est un achèvement. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. L'œuvre de la rédemption consiste à nous rendre parfaits, comme à l'origine. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un perfectionnement à faire. Il y a un perfectionnement à accomplir. C'est Dieu qui le fait. Ce perfectionnement-là, quand il dit « Soyez parfaits, donc, comme votre Père céleste est parfait », quand vous lisez ce que nous venons de lire dans Matthieu 5, reconnaissez que vous en êtes incapables. Priez Dieu qu'il le fasse en vous. Personne n'est capable de faire ce que Christ nous dit dans Matthieu 5. Bénir ceux qui vous haïssent. Vous savez très bien que telle personne ne vous aime pas. Et vous vous mettez à genoux, vous commencez à bénir la personne. Je vois que... On est d'accord, là. Ouais. Tout est accompli, donc. La rédemption, donc, c'est l'œuvre, le perfectionnement, c'est l'œuvre de Dieu. Ne faites pas des efforts inutiles. Ne dites pas qu'à partir d'aujourd'hui... D'ailleurs, le jour où vous prenez cette résolution, c'est le jour où Satan va vous attendre dehors. Chaque fois que je prêche sur ça, quand je rentre, je rencontre des choses bizarres. Alors je dois chaque fois me rappeler, « Ah, je viens de prêcher. » Mais quand vous dites, « Je viens de prêcher », vous l'avez déjà maudit. Mais vous ne voulez pas le prononcer parce que vous venez de prêcher. Et vous sentez dans le cœur, ça cogne. J'aurais dû le dire. 1 Pierre chapitre 5. Verset 10. Alors, non, on va commencer au verset 8. Il donne ce conseil, l'apôtre. Il dit, soyez sobre. Amen. Veillez. Qu'est-ce qui se passe? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est là, il rôde. Quand on va sortir d'ici, ça va commencer déjà. Il rôde. Il va vous accompagner jusqu'à l'arrêt du tram. Il va vous accompagner jusque dans votre voiture. Et il vous accompagnera même jusqu'à la maison. Parfois, il vous attendra même à la maison. Dites amen à ça. Il vous attend à la maison. Vous venez tranquillement d'un culte. Vous avez passé de bons moments. Et puis, ça éclate à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, frère, Satan m'a eu. Ah. 1 Pierre 5. Donc, soyez sobre. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais celui qui suscite la foi, Hébreux 12, c'est Christ. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Pas quelqu'un d'autre. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Maintenant, quand il dit « vous perfectionnera vous-même, lui-même », ne vous attendez pas à voir le trône céleste descendre et Dieu venir vous prendre, commencer à travailler votre intérieur. Ne vous attendez pas à ça. Il va vous donner des gens qui vous permettront ainsi et décider. Dieu va occasionner des circonstances qui vont faire de sorte que ça va travailler votre perfectionnement. Ça, c'est le moyen de te perfectionner, frère. Qu'est-ce qui dit que toi, tu n'es pas en kikinant pour elle? Oui, c'est ça. C'est comme ça. Nous, on croit toujours que c'est l'autre qui est en kikine. Vous savez, Dieu ne fait pas, il ne fait rien au hasard. Quand il enlève, ça je le dis souvent, quand il enlève Israël de l'Égypte pour l'amener à Canaan, c'est Dieu qui fixe l'ordre de marche. Vous n'avez pas à dire, ah, j'aime bien être à côté de mon frère, de mon fiston ici, je vais marcher, je vais faire la marche avec lui. Lui, on s'entend, vous entendez ici, on s'entend trop bien. Il est d'accord avec tout ce que je dis là. Ce qui fait, fiston, on ne marchera pas ensemble. Il faut que je marche avec quelqu'un avec lequel je ne m'entends pas. Arriver à le supporter. Et la personne doit aussi me supporter. L'apôtre dit, quand on est en désaccord, hein, marchons tous d'un même pas. Celui qui ouvre la marche, c'est Judas, la louange. Celui qui ferme la marche, c'est Dan. Idolâtre. Et lui, il a aussi besoin de voisins pour pouvoir les travailler. Donc, soyez content du voisin que Dieu vous donne et de la voisine que Dieu vous donne. Si vous enquiquinez, louez Dieu. Je suis en train de vous dire des choses dont je suis moi-même incapable de faire, mais je fais confiance à Dieu. Paul ajoute, connaît ce verset, on le lit souvent, dans Philippiens chapitre 1er, n'est-ce pas? Connais ça. Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il ne la laissera pas inachevée, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est le jour où, vers lequel nous allons aujourd'hui. Nous pouvons en être sûrs. Maintenant, je regarde. Ça, c'est pourquoi ceci est promis aux Philistins, aux Philippiens, pardon. Tout simplement parce qu'ils ont une part, ils ont pris une part à l'Évangile. Alors, je demande un peu à Google, c'est quoi ça prendre part à quelque chose? Il dit, c'est participer. Mais ça, c'est Google. On laisse un peu Google. C'est s'immiscer dedans. Alors, moi, je me dis, doit y avoir une réponse biblique que vous prenez part à l'Évangile. Le même apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens, chapitre 1er. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Ah, c'est ça prendre part à l'évangile. Vous avez entendu l'évangile, vous y avez cru. Amen. L'évangile est la parole de la vérité. Vous y avez cru, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous savez que Frère Abraham dit qu'une œuvre scellée, c'est une œuvre achevée. Donc, lorsque Dieu procède au scellement, c'est le travail en vous qui est achevé. C'est là où les pôles, les pierres, ceux-là qui nous ont précédés, en sont arrivés à des points, à des situations telles que, si on regarde dans 2 Corinthiens 6, ce que Paul dit, 2 Corinthiens 6, il dit, verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu. C'est un ustensile, un outil entre les mains de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Comment est-ce que Paul pouvait avoir autant de patience dans les tribulations? Lui qui avait le sang chaud par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, il a reçu des coups. Mais il n'en a pas remis non plus. C'est Dieu qui avait achevé son œuvre en lui. Dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. C'est le même Paul qui dit, désormais, j'ai achevé ma course. Lui aussi l'a achevé. Il a dit, j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne m'est réservée. Par beaucoup. Donc, je me rends recommandable comment? Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Qui aime être réputé mauvais? Personne. Là, on va aller. Non, il a dit ceci sur moi, il a dit ça sur moi, il a fait ça sur moi, il a dit ça, voilà, toute une litanie. Mais savoir rester, n'est-ce pas, patient. Que ce soit dans la gloire ou dans l'ignominie, dans le mépris, au milieu de la mauvaise et la bonne réputation, étant regardé comme un posteur, quoique véridique, lui, il sait qu'il est véridique, mais on le prend pour un imposteur. Mais il reste calme. Comme inconnu, quoique connu, qui ne connaît pas Paul aujourd'hui. Comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs. Votre richesse, là, terrestre, ne l'intéresse pas. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Une œuvre scellée, nous devons chercher cela, le scellement. Une œuvre scellée est une œuvre achevée. Tant que ce n'est pas le cas, il donne l'exemple du wagon de chemin de fer. Le frère, il dit quand il travaillait au chemin de fer, il chargeait les wagons des colis et des paquets, et les wagons devaient être bien chargés. Et même aujourd'hui, les avions, quand on amène nos bagages et tout ça, on doit vous former pour charger les avions. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui va juste prendre une valise et la jeter n'importe comment, là dans la soute, non. Il y a une méthodologie. Dites amen à ça. Et quand c'est bien mis, l'inspecteur vient. L'avion, c'est comme ça aussi. Il y a l'inspecteur des chargeurs, là, qui vient. Il vient inspecter. S'il ne fait pas bien son travail, il va y avoir un problème. Parce que quand l'avion va décoller, il ne faut pas que les valises, enfin, tout ce qui est dans la soute, commencent maintenant à tomber vers le bas, à aller vers le bas. Si ça va vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Tout le poids va aller vers le bas. Le poids doit être bien, bien réparti. Et ça doit être bien, bien bloqué. Donc il va regarder, il va venir voir si ça tient bien. Et le frère, il parlait des wagons, puis il a travaillé dans le chemin de fer. Alors quand le wagon était chargé, on bougeait le wagon. Si on entendait du bruit, il dit, il y a encore du jeu. S'il y a encore du jeu, allez, on remettait ça. On essayait maintenant de bien ajuster. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il laisse l'autre là. Nous cribler, voilà. Nous cribler comme on crible le froment. S'il y a encore du jeu, il y a un problème. Alors Dieu doit arranger ce problème-là. Et Satan, il a réclamé Pierre, Jacques, Jean, tout cela, il les a tous réclamés. Il a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et Dieu laisse. Jésus-Christ ne dit pas, je l'ai empêché de vous cribler. Hein. Il ne dit pas ça. Il dit, j'ai prié pour vous. Luc chapitre 23. Ou 22, je ne sais plus. Je n'avais pas écrit ça. Chapitre 22, verset 31. Ça, c'est Pierre qui se croyait déjà. Du bon côté. Hein. On peut commencer au verset 28 et puis on va arrêter. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangez, buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il ne dit pas qu'il en a empêché. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, quand tu seras affermi, convertira tes frères, mais bon, ça dépend des traductions. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Attends le crible. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Il y avait encore du jeu. Mais plus tard, le même Pierre, une fois baptisé du Saint-Esprit, le même Pierre va dire, jugez-en vous-même. S'il faut servir, s'il faut vous obéir à vous plutôt ou à Dieu. Oui. Donc, si Dieu a commencé son œuvre en vous, soyez persuadé d'une chose, il achèvera. Mais il achèvera au milieu de tribulation, au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Il y en a qui parleront de vous, vous êtes un bon frère, vous êtes une bonne sœur. D'autres diront, vous êtes un mauvais frère, vous êtes une mauvaise sœur. Tout ça, nous devons bien l'accepter. Et continuer à bénir les personnes qui vous maudissent. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Prions le Seigneur. Prions. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui, dès le commencement, tu as voulu que nous soyons à ton image. Que le Dieu qui ne réagit pas de manière épidermique, si je peux dire ainsi. Tu es lent à la colère. Et tu veux que nous soyons lents à la colère. Tu veux que nous soyons comme toi. Aussi, viens nous en aide. Car de nous-mêmes, cela nous est impossible. Que ta grâce soit sur nous. Que tu nous assistes. Que tu nous bénisses en étant avec nous. Car ta présence pour nous est une grande bénédiction. C'est vrai, il y a certainement encore du jeu lorsque nous sommes secoués. Notre foi défaille. Mais si tu as prié pour Pierre, si Christ a prié pour Pierre, nous savons qu'il a prié pour nous également. Il a dit dans Jean 17, il a dit qu'il priait aussi pour tous ceux qui croiraient en sa parole. Et par ta grâce, tu nous as permis d'être aujourd'hui, d'avoir pris part aujourd'hui à l'Évangile, à cette bonne nouvelle. Et que l'Évangile fasse son œuvre au-dedans de nous. Nous y avons cru. Et ainsi, comme Jean-Baptiste l'a dit, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Si c'est toi qui vois si l'œuvre est achevée, c'est toi qui vois encore ce qu'il y a à faire au travers de chacun de nous tous, au-dedans de chacun de nous tous. Fais ton œuvre. Nous sommes conscients que ce que nous te demandons peut nous sembler être difficile un jour ou lors d'une certaine occasion, mais ne nous laisse pas tomber. Nous voulons, par ta grâce, rester debout. Merci pour la soirée d'aujourd'hui, pour cette petite parole qui a été apportée, pour cet ordre que le Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et comme quand tu disais au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous savons que nous le deviendrons parfait. Nous le deviendrons. Parce que c'est toi qui as décidé. Merci Seigneur. Pour toutes choses. Merci pour l'audition de la parole, pour la prédication. Nous te disons merci et nous te prions au nom merveilleux et tout suffisant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Quand nous allons sortir, soyons vainqueurs.